Chapitre 29. Le diadème perdu.
Neville! Mais qu'est-ce que... Comment?
Mais Neville venait d'apercevoir Ron et Hermione, et avec des cris d'allégresse, il se précipita également sur eux pour les serrer dans ses bras. Plus Harry le regardait, plus son état lui paraissait effrayant. Il avait un œil enflé, violacé, des marques profondes sur le visage et son apparence, dépenaillé, laissait deviner qu'il vivait à la dure. Son visage meurtri rayonnait cependant de bonheur lorsqu'il relâcha Hermione et s'exclama à nouveau « Je savais que vous viendriez. Je n'ai pas arrêté de répéter à Simus que c'était une simple question de temps. Neville, qu'est-ce qui t'est arrivé ?»«
Quoi ? Oh, ça, c'est... »
D'un hochement de tête, il minimisa la gravité de ses blessures.
« C'est rien. Simus est dans un état bien pire. Vous verrez. Bon, on y va ?
Oh ! » ajouta-t-il en se tournant vers Abelfort.
« Ah ben, il y a peut-être deux autres personnes qui vont arriver. »«
Deux autres ?» répéta Belfort d'un ton sinistre. « Qu'est-ce que tu veux dire par deux autres, long du bas ? Il y a un couvre-feu, et tout le village est soumis au charme du cri du rut. »«
Je sais, et c'est pour ça qu'ils vont transplaner directement dans le bar, » répondit Neville. « Envoyez-les simplement dans le passage dès qu'ils arriveront, d'accord ? Merci beaucoup. »
Neville tendit la main à Hermione et l'aida à monter sur le manteau de la cheminée pour accéder au tunnel. Ron, puis Neville la suivirent. Harry s'adressa à Abelfort.
« Je ne sais comment vous remercier. Vous nous avez sauvé la vie deux fois. »«
Veille bien sur eux, » lança Abelfort d'une voix bourrue. « Je ne pourrai peut-être pas les sauver une troisième fois. »
Harry grimpa à son tour sur la cheminée et franchit l'ouverture derrière le portrait d'Ariana. De l'autre côté, des marches de pierre polie permettaient de descendre dans le passage qui semblait exister depuis des années. Des lampes de cuivre étaient accrochées au mur et le sol de terre battu était usé, lisse. Lorsqu'ils s'avancèrent, leurs ombres ondulèrent sur le mur dans un mouvement semblable à celui d'un éventail.
« Depuis quand est-il là, ce tunnel ?»
demanda Ron, tandis qu'il se mettait en chemin.
« Il n'est pas sur la carte du maraudeur, hein, Harry ? Je croyais qu'il y en avait que sept passages qui permettaient de sortir de l'école ou d'y entrer.
« Ils les ont tous condamnés avant le début de l'année, » dit Neville.
« Oh, on ne peut plus les utiliser maintenant, avec tous les maléfices qui en protègent l'entrée et les mange-morts et les détraqueurs qui attendent à la sortie. »
Il se mit à marcher à reculons devant eux, rayonnant, se délectant de les voir.
« Mais peu importe. Alors, c'est vrai, vous avez réussi à cambrioler Gringotts et vous vous êtes enfui sur un dragon ?» Tout le monde en parle. Terry Bott s'est fait taper dessus par Caro pour l'avoir crié dans la grande salle pendant le dîner.
« Ouais, c'est vrai, » confirma Harry.
Neville eut un rire ravi.
« Et qu'est-ce que vous avez fait du dragon ?»«
Oh, bah, on l'a relâché dans la nature, » répondit Ron. « Hermione avait très envie de le garder avec elle.
N'exagère pas, Ron. Et qu'est-ce que vous avez fabriqué pendant tout ce temps-là, Harry ?» Les gens disent que vous étiez simplement en fuite, mais je ne les crois pas. Je me doute que vous aviez quelque chose à faire.
C'est vrai, admit Harry. Mais parle-nous plutôt de Poudlard. Nous ne savons pas du tout ce qui s'y passe.
Oh ben c'est devenu... En fait, ce n'est plus le Poudlard que vous avez connu, dit Neville, son sourire s'effaçant. Vous connaissez les carreaux?
Les deux mange-morts qui donnent des cours?
Ils ne se contentent pas de donner des cours. On leur a confié toute la discipline. Et crois-moi, ils aiment les punitions, les carreaux.
Comme Ombrage.
Oh non, elle paraît bien pâle à côté d'eux. Les autres profs ont pour consigne de nous envoyer chez les carreaux en cas de mauvaise conduite, mais ils ne le font pas, s'ils peuvent l'éviter. On voit bien qu'ils les détestent autant que nous. Amicus, le frère, nous enseigne ce qu'on appelait la défense contre les forces du mal. Sauf que maintenant, ils ont rebaptisé ça l'art de la magie noire. On est censé s'entraîner à jeter le sortilège de Loris en prenant comme cobaye les élèves qui sont en retenue.
Quoi ?
Les voix de Harry, Ron et Hermione résonnèrent à l'unisson dans tout le tunnel.
Oui, dit Neville. C'est ce qui m'a valu ceci.
Il montra une entaille particulièrement profonde sur sa joue.
J'avais refusé de le faire, mais il y a des gens qui s'y habituent très bien. Crabbe et Goyle, par exemple, aiment beaucoup ça. « J'imagine que c'est la première fois qu'ils sont les meilleurs en quelque chose. » Alecto, la sœur d'Amicus, est chargée de l'étude des moldus, une matière obligatoire pour tout le monde.
On est tous obligés de l'entendre expliquer que les moldus sont des animaux sales et stupides, qu'ils ont forcé les sorciers à vivre dans la clandestinité en les persécutant et que l'ordre naturel est en passe d'être rétabli. J'ai eu ça.
Il montra une autre plaie sur son visage. Pour lui avoir demandé quel pourcentage de sang moldu ils avaient dans les veines, son frère et elle.
« Voyons, Neville, » dit Ron, « quand on veut faire de l'ironie, il faut choisir le bon endroit et le bon moment. Tu ne l'as jamais entendu. Toi non plus, tu n'aurais pas supporté. D'ailleurs, ça aide quand les élèves leur tiennent tête. Ça donne de l'espoir à tout le monde. Je l'avais déjà remarqué à l'époque où c'était toi qui le faisais, Harry.
On dirait que tu leur as servi à aiguiser des couteaux, » remarqua Ron avec une légère grimace lorsqu'ils passèrent sous une lampe qui mit davantage en relief les blessures de Neville.
Celui-ci haussa les épaules.
« Ce n'est pas grave. Ils ne veulent pas trop verser de sang pur, et même s'ils nous torturent un peu quand on est insolent, ils ne nous tuent pas. »
Harry ne savait pas ce qui était le pire, ce que Neville racontait ou le ton de banalité sur lequel il le racontait.
Et les seules personnes en danger sont celles dont les amis ou la famille s'opposent au régime. On les prend en otage. Le vieux Xeno Lovegood a exprimé ses opinions un peu trop ouvertement dans le chicaneur, alors ils ont enlevé Luna dans le train quand elle a voulu rentrer chez elle pour Noël.
Elle va bien, Neville, on l'a vu.
Je sais, elle s'est arrangée pour me prévenir.
Il sortit de sa poche une pièce d'or et Harry reconnut l'un des faux galions que les membres de l'armée de Dumbledore utilisaient pour s'envoyer des messages.
« Ils ont été très utiles, » dit Neville, en adressant à Hermione un sourire radieux. « Les carreaux n'ont jamais découvert comment on communiquait. Ça les rendait fous. La nuit, on avait l'habitude de sortir en douce du dortoir pour aller écrire sur les murs. « Armée de Dumbledore, le recrutement continue. » Ou des trucs dans ce genre-là. Rogue avait horreur de ça.
« Vous aviez l'habitude, » dit Harry, qui avait remarqué l'usage de l'imparfait.
« Ouais, c'est devenu plus difficile avec le temps, » expliqua Neville. « Nous avons perdu Luna à Noël et Ginny n'est jamais revenue après Pâques. Or, nous étions un peu les leaders, tous les trois. Les carreaux semblaient savoir que j'avais une grande part de responsabilité et ils me l'ont fait payer assez durement. Puis, Michael Corner a été surpris en train de libérer un élève de première année qu'ils avaient enchaîné. Ils l'ont terriblement torturé, ce qui a fait peur aux autres.
« Tu m'étonnes, » marmonna Ron. Le tunnel commençait à remonter.
Je ne pouvais pas demander aux gens de subir la même chose que Michael. On a donc laissé tomber ce genre d'exploit. Mais on continuait quand même de se battre en menant des actions souterraines jusqu'à il y a 15 jours environ. À ce moment-là, ils ont dû estimer qu'il n'y avait plus qu'un seul moyen de m'arrêter et ils s'en sont pris à ma grand-mère.
Quoi ? S'exclamèrent Harry, Ron et Hermione d'une même voix.
Oui,
dit Neville qui haletait un peu à cause de la pente raide que suivait le passage.
« On comprend leur raisonnement. Ils avaient obtenu de très bons résultats en kidnappant des élèves pour obliger leur famille à rentrer dans le rang. Il fallait s'attendre à ce qu'ils appliquent la même méthode dans l'autre sens.
Seulement voilà. » Il se tourna pour leur faire face et Harry fut étonné de le voir sourire.
Il ne savait pas à quoi il s'exposait avec ma grand-mère. Une petite vieille qui vivait seule. Ils ont sans doute pensé qu'il était inutile d'envoyer quelqu'un de très qualifié.
Le résultat, s'esclaffa Neville, c'est que Dolich est toujours à Sainte-Mangouste et que ma grand-mère est en fuite. Elle m'a envoyé une lettre. Il tapota la poche de poitrine de sa robe pour me dire qu'elle était fière de moi, que j'étais le digne fils de mes parents et que je devais continuer comme ça.
Bah cool, ta grand-mère, dit Ron.
Oui, approuva Neville d'un air joyeux.
La seule chose, c'est que quand ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas de prise sur moi, ils ont décidé que Poudlard pouvait très bien se passer de ma présence. Je ne sais pas s'ils avaient l'intention de me tuer ou de m'envoyer à Azkaban. En tout cas, je savais qu'il était temps de disparaître.
Mais, dit Ron, qui paraissait ne plus rien comprendre, est-ce qu'on n'est pas en train de retourner tout droit à Poudlard?
Bien sûr que si, dit Neville. Tu vas voir, on arrive.
Ils tournèrent un angle de mur et un peu plus loin, devant eux, ils virent le bout du tunnel. Une autre volée de marche menait à une porte identique à celle qui était cachée derrière le portrait d'Ariana. Neville la poussa et passa par l'ouverture. Alors que Harry le suivait, il entendit Neville crier à des gens qu'il ne voyait pas.
« Regardez qui arrive ! Je vous l'avais bien dit, non ?»
Lorsque Harry pénétra dans la pièce sur laquelle donnait la porte, Il y eut des cris, des hurlements.
« Harry ! C'est Potter ! C'est Potter !
Ron !
Hermione !»
Dans une vision confuse, il aperçut des tapisseries colorées, des lampes allumées et des visages qui se pressaient en grand nombre autour d'eux. Ron, Hermione et lui furent engloutis au milieu d'une bonne vingtaine de personnes qui les étreignaient de toutes parts, leur tapaient dans le dos, leur ébouriffaient les cheveux, leur serraient la main, comme s'ils venaient de gagner une finale de Quidditch.
« Ok, 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 du calme, tout le monde !» s'exclama Neville.
La foule recula et Harry put observer les lieux. Il ne reconnaissait pas du tout la pièce. Elle était immense et ressemblait un peu à l'intérieur d'une cabane dans les arbres particulièrement somptueuses ou encore à une gigantesque cabine de navire. Des hamacs multicolores étaient suspendus au plafond et à un balcon qui courait tout autour des murs aux lambris sombres, dépourvus de fenêtres et recouverts de tapisseries aux couleurs vives. Harry vit le lion doré de Gryffondor brodé sur un fond écarlate, le blaireau noir de Poufsouffle sur fond jaune et l'aigle de bronze de Serdaigle sur du bleu. Seul le vert et argent de Serpentard était absent. Des bibliothèques débordaient de livres, quelques balais étaient appuyés contre les murs et dans un coin, il y avait une grande radio en bois.
Mais où sommes-nous ?
Dans la salle sur demande, bien sûr, répondit Neville.
Elle s'est surpassée, tu trouves pas ? Les carreaux me poursuivaient et je savais que c'était ma seule chance de me cacher. J'ai réussi à franchir la porte et voilà ce que j'ai trouvé.
Elle n'était pas vraiment comme ça quand je suis arrivé, hein. Elle était beaucoup plus petite. Il n'y avait qu'un seul hamac et uniquement la tapisserie de Gryffondor. Mais elle s'est agrandie à mesure qu'augmentaient les membres de l'AD.
« Et les carreaux ne peuvent pas y entrer ?»
demanda Harry en se tournant vers la porte.
« Non, »
dit Simus, que Harry n'avait pas reconnu avant qu'il ne parle tant son visage était meurtri. « Tu méfiais.
C'est une très bonne cachette. » Tant que l'un de nous reste à l'intérieur, ils ne peuvent nous atteindre. La porte ne s'ouvre pas. Tout repose sur Neville. Il maîtrise vraiment cette salle. Quand on a besoin de quelque chose, il faut le demander très précisément. Par exemple, je ne veux pas que les partisans des carreaux puissent pénétrer ici. Et la salle le fera pour toi. On doit seulement être sûr de ne rien laisser au hasard. Neville est l'homme de la situation.
En fait, c'est très simple, dit modestement Neville. J'étais là depuis un jour et demi et je commençais à avoir vraiment faim. Alors j'ai souhaité avoir quelque chose à manger et c'est à ce moment-là que le passage vers la tête de sanglier s'est ouvert. Alors je l'ai suivi et j'ai rencontré à Belfort.
Il nous a donné des provisions parce que c'est la seule chose que la salle ne puisse pas fournir.
Je sais pas pourquoi.
La nourriture est l'une des 5 exceptions à la loi de Gamp sur la métamorphose élémentaire,
expliqua Ron à la surprise générale.
« Nous nous sommes donc cachés ici pendant près de 2 semaines, »
reprit Simus.
« Et la salle ajoute d'autres hamacs chaque fois que nous en avons besoin. Elle a même fabriqué une assez belle salle de bain quand les filles ont commencé à venir. »«
Et on pensait qu'elles aimeraient peut-être pouvoir se laver, »
ajouta Lavande Brown, dont Harry n'avait pas encore remarqué la présence. Maintenant qu'il regardait plus attentivement, il reconnaissait un bon nombre de visages familiers. Les 2 sœurs Patil, les jumelles, étaient là, ainsi que Terry Bott, Ernie Macmillan, Anthony Goldstein et Michael Corner.
« Alors, raconte-nous un peu ce que vous avez fait, »
dit Ernie.
« Il y a tellement de rumeurs. On a essayé d'avoir des nouvelles, de vous, à Potterveil. »
Il montra le poste de radio.
« Vous n'avez quand même pas cambriolé Gringotts ?»«
Si, justement, » s'exclama Neville. « Et l'histoire du dragon est vraie, aussi !»
Il y eut quelques applaudissements et des cris de joie. Ron salua.
« Qu'est-ce que vous cherchiez ?»
demanda avidement Simus. Avant que Ron, Hermione ou lui aient pu détourner la question en en posant une autre, Harry ressentit une douleur terrible, brûlante, dans sa cicatrice en forme d'éclair. Tandis qu'il tournait précipitamment le dos au visage curieux et ravi qui le regardait, la salle sur demande disparut et il se retrouva debout à l'intérieur d'une masure en ruine. À ses pieds, le plancher, moisi, était éventré. Une boîte en or qu'on avait déterrée était posée vide à côté du trou et le cri furieux de Voldemort vibra dans sa tête. Dans un immense effort, il s'arracha à nouveau à l'esprit de Voldemort et revint là où il était, dans la salle sur demande. Chancelant, la sueur ruisselant sur son visage, soutenu par Ron.
« Ça va, Harry ?» lui demanda Neville. « Tu veux t'asseoir ? J'imagine que tu dois être fatigué. »
« Non, » coupa Harry. Il regarda Ron et Hermione pour essayer de leur annoncer silencieusement que Voldemort venait de découvrir la disparition de l'un des autres Horcruxes. Le temps filait vite. Si Voldemort décidait de se rendre à Poudlard immédiatement après, il risquait de laisser passer leur chance. « Il faut y aller, » dit-il. Et l'expression de leur visage lui indiqua qu'ils avaient compris.
« Qu'est-ce qu'on fait, Harry ?» demanda Simus. « Quel est le plan ?»«
Le plan ?» répéta Harry. Il exerçait toute la force de sa volonté pour s'empêcher de succomber à nouveau à la rage de Voldemort. Sa cicatrice le brûlait toujours. « Eh bien, il y a quelque chose dont Ron, Hermione et moi devons nous charger, et ensuite on s'en ira d'ici. » Plus personne ne riait, ni ne poussait de cris de joie. Neville paraissait déconcerté.
« Qu'est-ce que tu veux dire par « on s'en ira d'ici »?»«
Nous ne sommes pas revenus pour rester, »
répondit Harry, en massant sa cicatrice pour essayer de soulager la douleur.
« Nous avons une tâche importante à accomplir. Mais qu'est-ce que c'est ?» Je ne peux pas vous en parler. »
Des murmures parcoururent la salle comme une vague. Les sourcils de Neville se froncèrent.
« Et pourquoi ? C'est quelque chose qui a un rapport avec le combat contre Voldemort, non ? » ?»«
Eh bien oui. » »«
Alors, on va vous aider ?»
Les autres membres de l'armée de Dumbledore hochèrent la tête en signe d'approbation, certains avec enthousiasme, d'autres d'un air solennel. Deux d'entre eux se levèrent de leur chaise pour manifester leur volonté de passer tout de suite à l'action.
« Vous ne comprenez pas. »
Il semblait que Harry avait souvent répété cette phrase au cours des dernières heures.
« Nous ne pouvons rien vous dire. Nous devons nous en occuper seuls. »«
Pourquoi ?»
interrogea Neville.
« Parce que... »
Dans sa hâte désespérée de partir à la recherche de leur crux manquant, ou au moins d'avoir une conversation privée avec Ron et Hermione pour savoir par où commencer, Harry avait du mal à rassembler ses pensées. La douleur de sa cicatrice était toujours cuisante. « Dumbledore nous a confié un travail à tous les trois, » expliqua-t-il avec précaution. « Et nous ne sommes pas censés révéler, enfin je veux dire, qu'il voulait qu'on s'en charge nous-mêmes, rien que nous trois. »
« Nous sommes son armée, » objecta Neville. « L'armée de Dumbledore, nous l'avons formée tous ensemble. Nous avons continué à la faire vivre pendant que vous étiez parti de votre côté.
« Ça n'était pas vraiment un pique-nique, hein, vieux, » répliqua Ron.
« Je n'ai jamais prétendu le contraire, mais je ne vois pas pourquoi vous n'auriez pas confiance en nous. Tous ceux qui sont dans cette salle se sont battus et ont été obligés de se réfugier ici parce que les carreaux les pourchassaient. Chacun de nous a montré sa loyauté envers Dumbledore. » « Envers toi, Harry !»«
Écoute, » commença Harry, sans savoir ce qu'il allait dire. Mais c'était sans importance, car la porte du tunnel venait de s'ouvrir derrière lui.
« On a eu ton message, Neville. Salut tous les trois. On pensait bien que vous seriez là. »
C'était Luna et Dean. Simus poussa un rugissement de bonheur et se précipita pour serrer son meilleur ami dans ses bras.
« Salut tout le monde !»
lança joyeusement Luna.
« Ça fait du bien de revenir.
Luna !»
s'exclama Harry, décontenancé.
« Mais qu'est-ce que tu fais ici? Comment as-tu ?»«
Je l'ai appelée, »
répondit Neville en montrant le faux galion.
« Je leur avais promis, à elle et à Ginny, de les avertir si tu te montrais. Nous pensions tous que si tu revenais ici, ça signifiait la révolution, la fin de Rogue et des carreaux. »
« C'est ce que ça signifie, bien sûr, »
dit Luna d'un ton réjoui.
« N'est-ce pas, Harry ? Nous allons les chasser de Poudlard. »
« Écoute, » reprit Harry, qui sentait la panique monter en lui. « Je suis désolé, mais ce n'est pas du tout. Enfin, ce n'est pas pour ça que nous sommes revenus. Nous avons un travail à accomplir, et ensuite...
« Tu ne vas pas nous abandonner dans cette galère ?»
s'indigna Michael Corner.
« Non, » répliqua Ron, « ce que nous allons faire finira par bénéficier à tout le monde. Il s'agit d'essayer de nous débarrasser de vous savez qui. »«
Alors laissez-nous vous aider !»
s'exclama Neville avec colère.
« Nous voulons participer !»
Il y eut un nouveau bruit derrière eux. Harry se retourna et son cœur faillit s'arrêter. Ginny enjambait l'ouverture du mur, suivie de près par Fred, George et Lee Jordan. Elle adressa à Harry un sourire radieux. Il avait oublié, ou peut-être n'avait-il jamais pleinement réalisé, à quel point elle était belle. Pourtant, jamais il n'avait été si peu content de la voir. Albelfort devient un tantinet grognon, dit Fred en levant la main pour répondre au cri qui le saluait. Il voudrait bien dormir un peu, mais son bar se transforme en garde-chemin de fer.
Harry resta bouche bée. Derrière Lee Jordan était apparu Cho Chang, son ancienne petite amie. Elle lui sourit.
« J'ai eu le message, »
dit-elle en montrant à son tour son faux galion. Elle alla s'asseoir à côté de Michael Corner.
« Alors, quel est le plan, Harry ?» demanda George.
« Il n'y en a pas, » répondit Harry, toujours désorienté par l'irruption de tout ce monde, incapable d'avoir une vue d'ensemble tant que sa cicatrice le brûlait si cruellement.
« On va improviser au fur et à mesure. C'est ce que je préfère, » dit Fred.
« Il faut arrêter ça !» s'écria Harry à l'adresse de Neville. « Pourquoi les as-tu appelés? C'est de la folie !»«
On se bat, non ?»
lança Dean en sortant son faux galion.
« Le message disait que Harry était de retour et qu'on allait en découdre. Moi, je dois me procurer une baguette. »«
Tu n'as pas de baguette ?» s'étonna Simus. Ron se tourna soudain vers Harry.
« Et pourquoi ne pourrait-il pas nous aider ?»«
Quoi ?
Ils peuvent nous être utiles !»
Baissant la voix de telle sorte que personne ne puisse l'entendre en dehors d'Hermione qui se trouvait entre eux, il ajouta
« Nous ne savons pas où est caché leur crux. Il faut que nous le trouvions très vite. Il n'est pas nécessaire de leur dire de quoi il s'agit. »
Harry regarda Ron, puis Hermione qui murmura
« Je crois que Ron a raison. Nous ne savons même pas ce que nous cherchons. Nous avons besoin d'eux. »
Voyant que Harry n'était pas convaincu, elle poursuivit
« Tu n'es pas obligé de faire tout toi-même. »
Harry réfléchit très vite, sa cicatrice toujours brûlante, sa tête menaçant à nouveau de se fendre. Dumbledore l'avait prévenu qu'il ne devait parler des Horcruxes à personne en dehors de Ron et d'Hermione.
« Le secret est le mensonge. C'est là-dedans que nous avons été élevés, et Albus était très doué pour ça. »
Était-il en train de se transformer en un autre Dumbledore qui garderait ses secrets bien serrés contre lui, en ayant peur de faire confiance à qui que ce soit. Dumbledore, cependant, avait eu confiance en Rogue. Et où cela l'avait-il mené?
À son assassinat, au sommet de la plus haute tour.
D'accord, dit-il à mi-voix aux deux autres.
Ok,
s'écria-t-il pour se faire entendre de toute la salle. Le silence tomba. Fred et George, qui venaient de raconter quelques bonnes blagues à ceux qui les entouraient, se turent soudain et tout le monde parut attentif, surexcité.
« Nous devons trouver un objet, » expliqua Harry. « Un objet qui nous aidera à renverser vous savez qui et qui est caché ici à Poudlard. Mais nous ne savons pas où. Il se peut qu'il ait appartenu à Serre d'Aigle. Quelqu'un en aurait-il entendu parler ? Quelqu'un a-t-il jamais vu quelque chose orné d'un aigle, par exemple ?
Il regarda avec espoir le petit groupe des serres d'aigle qui comportait Padma, Michael, Terry et Cho, mais ce fut Luna qui lui répondit, assise sur le bras du fauteuil de Ginny.
« Il y a le diadème perdu. Je t'en avais parlé, tu te souviens, Harry ? Le diadème perdu de serres d'aigle. Papa essaye de le reproduire. »
« Ah ben oui, mais justement, Luna !»
fit observer Michael Corner en levant les yeux au ciel.
« Le diadème perdu est perdu, hein ? C'est précisément ça l'ennui. »«
Quand a-t-il été perdu ?» interrogea Harry.
« Il y a des siècles, dit-on, » répondit Cho.
Harry sentit son cœur se serrer.
« Le professeur Flitwick a raconté que le diadème a disparu avec Serre d'Aigle elle-même. Des gens l'ont cherché. »
Elle regarda ses camarades de Serre d'Aigle d'un air interrogateur.
« Mais personne n'en a jamais retrouvé la trace, c'est bien ça ?»
Tous hochèrent la tête en signe d'approbation.
« Désolé, mais c'est quoi un diadème exactement ?» demanda Ron.
« Une sorte de couronne, » répondit Terry Bott. « Celui de Serre d'Aigle était censé avoir des propriétés magiques. Il rendait plus sage la personne qui le portait. »«
Oui, et les siphons à jonche-ruine de papa ?»
Mais Harry interrompit Luna.
« Personne parmi vous n'a jamais vu quelque chose qui puisse lui ressembler ?»
Ils hochèrent à nouveau la tête en signe de dénégation cette fois. Harry regarda Ron et Hermione. La déception qu'il lut sur leur visage reflétait la sienne. Un objet perdu depuis si longtemps, apparemment sans laisser de traces, ne semblait pas le candidat idéal pour servir d'Horcrux. Mais avant qu'il ait pu formuler une nouvelle question, Cho reprit la parole.
Si tu veux savoir à quoi le diadème est censé ressembler, je peux t'emmener là-haut dans notre salle commune et te le montrer. La statue de Serre d'Aigle le représente.
La cicatrice de Harry le brûla une nouvelle fois. Pendant un instant, la salle sur demande se brouilla devant ses yeux. Il vit la surface noire de la terre s'éloigner au-dessous de lui et sentit le grand serpent enroulé autour de ses épaules. Voldemort avait repris la voie des airs, soit en direction du lac souterrain, soit vers le château lui-même. Il n'aurait su le dire. Quoi qu'il en fût, il ne lui restait pas beaucoup de temps. « Il est en route, » dit-il à mi-voix à Ron et à Hermione. Il jeta un coup d'œil à chaud, puis se tourna à nouveau vers eux. « Écoutez, je sais que ça ne vaut pas grand-chose comme piste, mais je vais quand même jeter un coup d'œil à cette statue pour voir au moins le diadème. Attendez-moi ici et gardez l'autre en sécurité. » Chaud s'était levé, mais Ginny lança d'un air féroce. « Non, c'est Luna qui va emmener Harry, n'est-ce pas Luna ?»«
Oh, bien sûr, j'en serais ravie. »
répondit Luna d'une voix joyeuse. Chaud se rassit, visiblement déçu. « Comment on sort d'ici ?» demanda Harry à Neville.
« Par là !»
Il conduisit Harry et Luna dans un coin de la salle où un petit placard ouvrait sur un escalier raide.
Il mène à un endroit différent chaque jour, ce qui fait qu'ils n'ont jamais réussi à le découvrir, dit-il. Le seul ennui, c'est qu'on ne peut pas savoir exactement où on va se retrouver quand on sort. Sois prudent, Harry, il y a toujours des patrouilles dans les couloirs la nuit.
Pas de problème, assura Harry. À tout de suite. Luna et lui se dépêchèrent de monter l'escalier qui était long, éclairé par des torches, et tourné brusquement quand on ne s'y attendait pas. Enfin, ils arrivèrent devant ce qui apparaissait comme un mur solide.
« Viens là-dessous, »
dit Harry à Luna en sortant la cape d'invisibilité qu'il déploya sur eux. Il exerça une légère poussée sur le mur. Il s'effaça sous ses doigts et ils purent sortir. Jetant un coup d'œil derrière lui, Harry vit que le mur s'était aussitôt remis en place. Il se trouvait dans un couloir sombre. Harry entraîna Luna dans l'obscurité, fouilla dans la bourse qu'il portait au cou et y prit la carte du maraudeur. Il l'examina attentivement, le nez collé sur le parchemin, et repéra enfin les deux petits points qui les représentaient, Luna et lui. « Nous sommes au cinquième étage, » murmura-t-il en observant Ruzard, qui s'éloignait d'eux dans un couloir voisin. « Viens par ici. » Ils se mirent en chemin à pas feutrés. Harry avait souvent rôdé dans le château la nuit, mais jamais son cœur n'avait battu aussi fort. Jamais autant de choses n'avaient dépendu de la réussite de cette incursion. Harry et Luna traversaient les rectangles de lumière que la lune projetait sur le sol, passaient devant des armures dont les haumes grinçaient au son de leurs pas, tournaient des angles de murs derrière lesquels Dieu savait ce qui pouvait se cacher. Chaque fois qu'il faisait assez clair, il consultait la carte du maraudeur. À deux reprises, ils s'arrêtèrent pour laisser filer un fantôme sans attirer l'attention sur eux. À tout moment, Harry s'attendait à rencontrer un obstacle. Sa pire crainte était Peeves, et il tendait l'oreille à chaque pas pour entendre le premier signe qui trahirait l'approche de l'esprit frappeur.
« Par ici, Harry !»
chuchota Luna en le tirant par la manche vers un escalier en spirale. Ils grimpèrent les marches qui tournaient en cercle si étroit qu'on en avait le vertige. Harry n'était encore jamais monté dans cette partie du château. Enfin, ils atteignirent une porte sans poignée ni serrure, un simple panneau de bois patiné par le temps auquel était fixé un heurtoir en forme d'aigle. Luna tendit une main pâle, étrange, qui paraissait flotter dans l'air sans être rattachée à un bras ou à un corps. Elle frappa une seule fois, mais, dans le silence, ce simple son résonna aux oreilles de Harry comme un coup de canon. Aussitôt, le bec de l'aigle s'ouvrit, mais au lieu d'un cri d'oiseau, une voix douce, mélodieuse, s'en éleva pour demander
« Qui est apparu en premier, le phénix ou la flamme ?»« Qu'en penses-tu, Harry ?»
dit Luna, l'air songeuse.
« Quoi ? Il ne suffit pas d'avoir un mot de passe ?»«
Oh non, il faut répondre à une question, » expliqua Luna.
« Et si on se trompe ? »
Alors, on doit attendre que quelqu'un d'autre vienne avec la bonne réponse. Comme ça, on a appris quelque chose, tu comprends?
Ouais, oui. L'ennui, c'est qu'on ne peut pas vraiment se permettre d'attendre l'arrivée de quelqu'un d'autre, Luna.
Mais je vois ce que tu veux dire,
déclara-t-elle d'un ton grave.
Dans ce cas, je pense que la réponse, c'est que le cercle n'a pas de commencement.
Bien raisonné,
approuva la voix de l'aigle, et la porte s'ouvrit. La salle commune déserte de Serre d'Aigle était un vaste espace circulaire beaucoup plus aéré que toutes les autres pièces que Harry connaissait à Poudlard. D'élégantes fenêtres en arcade agrémentaient les murs tendus de soie couleur bleue et bronze. Dans la journée, les Serres d'Aigle devaient avoir une vue spectaculaire sur les montagnes environnantes. Le plafond, en forme de dôme, était parsemé d'étoiles peintes dont on retrouvait le reflet dans la moquette bleu nuit. Il y avait des tables, des fauteuils, des bibliothèques, et dans une niche, face à la porte, une haute statue de marbre blanc. Harry reconnut Rowena Serre d'Aigle, grâce au buste qu'il avait vu dans la maison de Luna. La statue se trouvait à côté d'une porte qui devait mener, pensa-t-il, dans les dortoirs de l'étage supérieur. Il s'avança, droit vers la femme de marbre qui sembla lui rendre son regard en l'accompagnant d'un demi-sourire énigmatique. Elle était belle, mais légèrement intimidante. Un petit diadème délicatement ouvragé avait été reproduit dans la pierre au sommet de sa tête. Il n'était pas sans rappeler la tiare que Fleur avait portée à son mariage. Des mots écrits en lettres minuscules étaient gravés dessus. Harry sortit de sous la cape d'invisibilité et grimpa sur le piédestal de la statue pour les lire. « Tout homme s'enrichit quand abonde l'esprit. »«
Mais quand on perd l'esprit, on finit sans le sou !»
lança derrière lui une voix caquetante. Harry fit volte-face, glissa du piédestal et atterrit sur le sol. La silhouette aux épaules tombantes d'Alecto Caro se tenait devant lui. Harry leva sa baguette, mais au même moment, elle appuya un index boudiné sur la tête de mort et le serpent tatoué sur son avant-bras.